Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler du Sahel, des dynamiques et des impasses politiques des pays qui composent la région, dans un contexte de présence militaire des armées françaises, j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Niagale Bakayoko, politologue, spécialiste des dynamiques politiques au Sahel, directrice de l'ASSN, l'African Security Sector Network, que je vais peut-être vous laisser définir, mais qui est disons un réseau d'experts qui réfléchit sur les questions de sécurité en Afrique, c'est à peu près ça ?
C'est un think tank, plus exactement, qui effectivement allie à la fois l'expertise de praticiens et de spécialistes davantage venus du monde académique qui, depuis 2003 maintenant, réfléchissent et surtout cherchent à promouvoir une gouvernance plus démocratique de la sécurité sur le continent africain.
Très bien. Donc, bonjour, merci beaucoup d'être là et bienvenue dans le Collimateur.
Merci.
Alors, la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est évidemment la grande question stratégique et capacitaire de la décennie, peut-être pour les armées françaises et même au-delà, puisque la France est engagée directement au Sahel depuis bientôt 10 ans, engagement qui, à bien des égards, détermine et révèle beaucoup des capacités militaires françaises, en tout cas dans un format d'opération extérieure. Et on peut dire, sans trop empiéter sur la discussion, que c'est un engagement qui est très largement une impasse, puisque ce n'est pas un mystère que la France aimerait réduire sa participation dans ces opérations. C'est en tout cas très clairement affiché par le pouvoir politique français pour pouvoir déployer ses moyens vers autre chose, entre autres la préparation à des conflits de haute intensité, peut-être plus proches de nos frontières. Et ça n'est pas un secret non plus que c'est manifestement compliqué, puisque ça impliquerait que la raison de cet investissement au Sahel disparaisse, à savoir le risque posé par des groupes djihadistes, c'est-à-dire qui forment des sanctuaires, ou même éventuellement prennent le pouvoir dans certains endroits. Ou au moins, il faudrait que ce risque puisse être jugulé par les États de la région et leurs armées, ce qui, à bien des égards, n'est pas le cas, puisque on sait que ce sont des pays qui sont pour un certain nombre en crise politique, et dont on ne s'attend pas à ce qu'ils puissent résoudre ce problème tout seuls, en tout cas à l'heure actuelle, comme le montre par exemple le fait que le Mali semble songer à se tourner vers les forces du groupe russe Wagner dans un contexte de fin de l'opération Barkhane. Bref, de tous les points de vue, ça fait beaucoup d'efforts, de moyens et de vie dépensée pour gérer un problème qui, de toute évidence, ne se résout pas, puisque si la menace djihadiste est contrôlée tant que les armées françaises ou occidentales s'y trouvent, la perspective d'un retrait laisse craindre qu'on en revienne à la case départ, c'est-à-dire celle de 2012-2013, à court ou à moyen terme. Donc c'est un problème dont on a évidemment souvent parlé, qu'on a notamment attaqué sous le prisme des groupes djihadistes, avec Wassim Nasr par exemple, c'est une émission de juin 2020 vers laquelle on peut renvoyer. On a aussi beaucoup parlé de la chose du point de vue capacitaire, des modes d'action des armées françaises et occidentales au Sahel, mais on voit bien que c'est un problème politique, de situation politique, locale et ultra-locale, puisque toutes les éliminations ciblées de djihadistes que l'on fait ne changent manifestement pas la capacité de ces groupes à recruter et à opérer, et on pourrait même considérer qu'elle l'augmente. Et je vais simplement dire que c'est vraiment Clausewitz 101, ce constat. Alors j'évite généralement de faire des références trop faciles à Clausewitz, parce que souvent ça sert pas à grand-chose, mais là c'est utile, puisque la base de Clausewitz, c'est vraiment l'idée que la guerre est un phénomène politique, et que donc ça n'a pas de sens de penser qu'on gagne une guerre simplement par des victoires militaires, comme la France les multiplie au Sahel de fait. Il faut donc que les effets se fassent sentir au plan politique, et clairement, c'est là que ça coince. Donc c'est le problème politique local et régional qu'il va s'agir de retracer et de comprendre aujourd'hui, dans ce contexte de présence militaire française, grâce à vous, Niagale Bakayoko. Et la première question que j'aurais aimé vous poser, c'est celle de l'origine de cette instabilité, de cette crise politique, puis militaire, dans les États du Sahel. Alors évidemment, on pourrait trouver bien des problèmes et des germes dans la situation coloniale, puis de décolonisation de la présence française dans les années 1960, mais Bon, souvent, disons, le point de bascule qu'on évoque pour comprendre la phase actuelle, c'est les printemps arabes et la chute de Kadhafi en 2011, sous l'action d'une coalition militaire occidentale, qui aurait déstabilisé toute la zone sahélienne. Est-ce que ça vous paraît le bon point de départ pour comprendre la situation ?
Alors, à mon avis, la situation est beaucoup plus complexe dans ses origines qui ont pour effet une crise multidimensionnelle. Donc, à crise multidimensionnelle, on dit bien entendu causes, qui le sont également. La crise libyenne a évidemment joué un rôle absolument majeur en termes de déstabilisation de la région. L'intervention occidentale, il est important de savoir que l'ensemble des chefs d'État africains, à commencer par celui qui a été présenté traditionnellement comme étant le principal allié de la France, à savoir feu le maréchal président Idriss Déby, n'a cessé de répéter que l'intervention en Libye était à l'origine de la situation dans le Sahel et qu'il appartenait à ceux qui avaient créé ce chaos de le réparer et de s'investir.
Donc Idriss Déby, rappelons, donc l'ancien président
général
tchadien.
C'est effectivement l'ancien président décédé très récemment. Hein.
Sait que le Tchad a aussi vécu, disons, l'action de groupes qui ont agi, disons, et qui ont été armés dans le contexte de la guerre civile libyenne et qui sont descendus, et c'est un peu l'origine de sa fin. Mais on voit...
Non. Alors ça, je pense qu'il est très important, justement, de préciser les choses. Les groupes qui sont à l'origine de l'offensive qui a été menée, effectivement, depuis le sud de la Libye, sont des groupes nationaux tchadiens. Hein, qui ont trouvé refuge sur le territoire libyen. Comme toutes les oppositions à Idriss Déby, qui, il est aussi important de le savoir, sont souvent issues de son propre clan, hein, se sont réfugiés, notamment au Soudan, voisin, à certaines époques. Il y a aussi la question des liens avec la République centrafricaine. Donc je ne pense pas, en l'occurrence, pour ce qui concerne la crise tchadienne elle-même, que la situation en Libye soit à l'origine de la déstabilisation du pays. À mon avis, c'est une problématique différente. Mais en tout cas, tout ce qui concerne le Sahel dit central, c'est-à-dire le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la crise libyenne a évidemment eu un rôle d'accélérateur pour la raison suivante, c'est que le colonel Muammar Kadhafi avait accueilli les rebelles Touareg maliens qui étaient en lutte contre l'État central, contre Bamako, depuis des décennies en réalité. C'est-à-dire qu'ils avaient commencé à se battre contre la centralisation de l'État malien dès les années 60, hein, dès le début des années 60, 62, 63, c'est la première rébellion de Touareg. Et il y a eu échec de ces rébellions successives, dont la première a été vraiment réprimée de manière sanguinaire par le régime de Modibo Keïta. Il y a eu beaucoup de réfugiés Touareg qui ont rejoint la Libye de Muammar Kadhafi, un certain nombre d'entre faisait partie de sa garde rapprochée. Donc la chute de Muammar Kadhafi a précipité le retour de ces rebelles, effectivement, dans leur pays, le Mali. La rébellion précédente s'était achevée, s'était conclue par l'accord d'Alger de 2006. Donc ça faisait seulement 6 ans, hein, en réalité, qu'elle s'était calmée. Et ce retour s'est accompagné de l'accès à l'arsenal libyen. Donc ça, c'est une des premières causes de la crise sahélienne. Mais il y en a d'autres. Le voisin algérien a beaucoup pesé sur les dynamiques qui se sont développées, notamment dans le nord du Mali. C'est-à-dire que la guerre civile algérienne a contribué à pousser vers l'extérieur du pays les groupes terroristes, djihadistes, à commencer par le GIA, le groupe islamique armé, qui s'est ensuite transformé en GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat, qui lui-même a prêté allégeance à Al-Qaïda et qui est devenu Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et dès les années 2000, la fin des années 2000, les années 2010, ces groupes sont présents dans le nord du Mali. Et le président ATT à l'époque, Amadou Toumani Touré, a plutôt choisi une posture d'apaisement, d'accommodement avec ces groupes. Il n'était d'ailleurs pas le seul. Hein. Un président comme Blaise Compaoré, voilà, a notamment joué un rôle important dans les négociations qui ont pu avoir lieu au Burkina Faso, pardon, qui ont notamment conduit à engager des négociations parce que ces groupes, justement, ont commencé à se livrer à des enlèvements d'Occidentaux. Hein, et un élément très intéressant à savoir est que, justement, dans ces processus de négociation, l'un des principaux interlocuteurs, y compris de la France, a été Yad Aghali, qui est aujourd'hui considéré comme l'ennemi public numéro un, puisqu'en effet, il est depuis devenu un chef djihadiste, mais il appartenait à l'appareil d'État français, il a été consul en Arabie Saoudite et c'est quelqu'un qui a participé à de nombreux processus de négociation. Autre cause de cette crise qui commence au Mali et qui aujourd'hui s'est étendue à la région, il y a aussi une remise en cause, à mon avis, assez profonde. Vous parliez de questions décoloniales, postcoloniale, moi je n'aime pas forcément utiliser ces termes. Moi, il me semble qu'il y a surtout une remise en cause du modèle d'État post-indépendance qui arrive à un point d'échec à de très nombreux égards, c'est-à-dire échec en matière de sécurité, échec en matière de démocratisation, échec en matière d'éducation, l'éducation est vraiment au cœur du conflit, échec en matière d'urbanisation, échec en matière de décentralisation. Le conflit Touareg au nord est extrêmement lié à cette dynamique de démocratisation qui n'a en réalité jamais abouti. Évidemment, échec du développement. Et on voit quand même que très rapidement intervient, alors effectivement il y a la crise de 2012, mais la chute justement du président Burkinabé.
La crise de 2012, on peut dire que c'est avant même, on va dire, on va y arriver à Serval, qui est l'opération Serval qui commence en 2013, mais dès 2012 il y a déjà ce contexte djihadiste de contestation des États sahéliens par le Nord, notamment au Mali. Il y a déjà un coup d'État au Mali en 2012 par une junte.
C'était là que j'allais en venir. J'allais parler du Burkina Faso qui, dès 2014, expérimente, vit une insurrection populaire qui aboutit à la chute de Blaise Compaoré, qui était quand même considéré comme le leader incontesté, central et médiateur de très nombreux conflits dans la région. Il faut quand même se rendre très proche d'ailleurs hein, de Kadhafi lui aussi. Donc lui tombe dès 2014, mais comme vous venez de le rappeler, c'est là que j'allais en venir pour parler de cette crise de gouvernance. Il y a effectivement ce coup d'État militaire qui intervient le 22 mars 2012, où des sous-officiers, notamment sous la houlette du capitaine Amadou Sanogo, prend le pouvoir, renverse le président Amadou Toumani Touré, alors que le Mali était présenté comme une vitrine démocratique, comme un modèle, vraiment au sens propre du terme, d'État dont il convenait de s'inspirer, tellement la démocratisation initiée au début des années 90 avait été présentée comme couronnée de succès. Donc le président ATT est renversé juste avant la fin de son mandat. Et donc, il y a cette junte qui prend le pouvoir de manière très sanguinaire, contrairement à celle, la junte dont on parlera ensuite, hein, qui est au pouvoir aujourd'hui. Très sanguinaire, notamment en interne, à l'intérieur de l'armée. Il y a énormément d'éliminations avec une lutte fratricide entre ce qu'on appelait les bérets rouges, donc les commandos parachutistes, dont était issu d'ailleurs ATT, qui était considéré comme l'élite l'élite de l'armée, et les bérets verts, c'est-à-dire les soldats davantage issus du rang. Et ce coup d'État, bien entendu, apparaît comme un facteur d'affaiblissement du pouvoir à Bamako et favorise la progression sur le territoire de deux types de mouvements armés. C'est ça qui est très très important, qui vont faire une alliance contre nature qui va très vite échouer d'ailleurs. Donc les premiers groupes, ce sont des groupes indépendantistes, Touareg, d'une part, et les autres, ce sont effectivement des groupes djihadistes. Et l'un de ces groupes, le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, décide de s'allier avec ces mouvements djihadistes, dont Al-Qaïda au Maghreb islamique, mais aussi d'autres groupes, notamment le groupe qui s'appelle le Moudjao, le Mouvement pour l'Unicité du Djihad. En Afrique de l'Ouest, on va voir d'autres groupes apparaître progressivement, puisque ces groupes fonctionnent aussi par sissiparité, et donc en cas de désaccord entre leurs leaders, d'autres secrets. Donc il y a le groupe Al-Mourabitoun qui apparaît également, et ces groupes vont être en mesure de conquérir les villes du Nord et progressent jusqu'à la ville de Kona. Et c'est à ce moment-là que la junte, que l'organe régional qui s'appelle la CDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, avait réussi à convaincre de quitter le pouvoir au profit d'autorités de transition. Donc ce sont ces autorités de transition qui, début 2013, sollicitent l'aide de la France pour contrer cette offensive rebello-djihadiste.
Ah voilà, alors donc là c'est le chapitre, c'est le coup de départ de la phase dans laquelle on est encore aujourd'hui, donc c'est évidemment l'opération Serval, dont on peut dire qu'assez rapidement c'est une réussite, en tout cas du point de vue tactique, parce que ne serait-ce que dès que la France arrive, on a eu des récits d'officiers qui nous racontaient ça, mais en fait les groupes djihadistes remontent vers le nord très rapidement, les premiers combats c'est dans la Drar des Iforas, donc tout au nord du Mali, donc... Concrètement, non seulement ça marche très bien pour libérer les territoires qui ont été conquis, mais même il n'y a pas de combat parce que tellement les djihadistes se retirent. Mais donc ça, c'est
les djihadistes, et il faut insister quand même sur la problématique, parce que ça reste quand même aujourd'hui au cœur, à mon avis, des grands désaccords ou des grandes incompréhensions entre la France et le Mali et des groupes rebelles Touareg. C'est très important.
Mais alors justement, venons-y. Donc là, c'est le bilan militaire tactique, en quelque sorte, dans un premier temps. Mais comment est-ce que, disons, cette intervention est reçue du point de vue politique sur la scène malienne et plus largement sur la scène, disons, des États et des scènes politiques d'Afrique de l'Ouest, alors... Parce que de là, seront ou pas d'ailleurs les ferments de la phase politique qui démarre à ce moment-là.
Alors justement, pour poursuivre sur ce que j'étais en train de vous indiquer, il faut préciser qu'il y a eu rupture vraiment irréconciliable entre les groupes djihadistes et les groupes comme le MNLA, notamment, indépendantistes. Et à Bamako, on voue une rancœur extrêmement forte contre ces groupes rebelles qui sont considérés comme ayant trahi le pays de par leur alliance avec les groupes djihadistes et de par leur volonté quand même assez sécessionniste. Et va se produire quelque chose pendant cette intervention Serval qui, par ailleurs, est un réel succès opérationnel, vous avez tout à fait raison de l'indiquer, il va y avoir une alliance de l'armée française avec certains de ces groupes sur le terrain, de ces groupes rebelles très importantes, notamment dans la région de Kidal, et lors de la reconquête...
C'est-à-dire il faut trouver des appuis locaux, donc on choisit les
on
groupes
choisit
rebelles
les Touareg,
contre les djihadistes.
Contre les djihadistes, et ce qui est perçu aussi à Bamako comme une trahison de l'État malien, parce que il s'agissait d'acteurs qui cherchaient à, si ce n'est, enfin si à l'époque, il y avait de vraies prétentions de sécession, même si après ils les ont un peu, même largement réduites. Donc à Bamako, il y a d'une part cette, et plus largement dans l'ensemble du pays, il y a effectivement cette très grande reconnaissance face à la France. Bon, François Hollande, c'est très connu, il est acclamé. Toutes les villes, effectivement, sont reconquises. Les objectifs tactiques sont fixés, avaient été fixés et ont été atteints. Par ailleurs, élément très important, il y a, contrairement à l'intervention en Libye, la suite est quand même pensée, puisque très vite se met en place non seulement la mission africaine, la mission internationale sous conduite africaine qui réunit des troupes de la CDEAO et des troupes tchadiennes sous l'égide de l'Union africaine, qui appuie la progression de l'armée française. Et c'est là aussi que les Français ont l'habitude de saluer le caractère particulièrement glorieux des guerriers tchadiens. Hein. C'est vraiment dans ce cadre-là, à cette époque-là. Et c'est le moment aussi où on commence à préparer le relais de cette force à la MINUSMA, aux Nations Unies. Donc les choses sont quand même préparées, sont mises en place, et elles le sont aussi d'un point de vue politique, puisqu'on décide très vite, certainement beaucoup trop vite, d'organiser des élections qui ont lieu dès l'été 2013. Et ce sont ces élections qui aboutissent à la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka.
Ouais, on peut déjà introduire l'acronyme Ibeka, parce que c'est comme ça qu'il est connu. On va s'en servir, évidemment. Mais alors, le chapitre suivant, c'est, du point de vue français en tout cas, c'est la transformation de Serval en Barkhane en juillet 2014, avec l'idée que, voilà, faut pas rester au Mali, c'est le djihadisme se combat dans l'ensemble de la région, puisque c'est une région qui a une unité. Même question, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait que la présence française se pérennise comme ça, puisqu'on passe d'une mission d'urgence à une mission durable? Est-ce que c'est plutôt vu positivement, comme une aide bienvenue face à ce qui est reconnu consensuellement comme un danger? À l'époque, les djihadistes n'ont pas très bonne presse quand même. Ou est-ce que ça commence déjà à être contesté? Et notamment, je veux dire, est-ce que le fait que ce soit la France, qui est l'ancienne puissance coloniale quand même, qu'est-ce que ça déclenche par ailleurs? C'est-à-dire, est-ce que la France était la mieux placée pour être là, ou la moins bien placée pour faire ça, ou les deux peut-être?
Alors, qu'est-ce que ça déclenche? Moi, je pense que d'abord, il est important de dire que, bien sûr, le passage de Serval à Barkhane consiste à considérer que, en effet, la menace djihadiste combattue n'a pas de frontières. Mais il vise aussi, ça, il ne faut pas l'oublier, à mon avis, c'est très important, à transformer le dispositif épervier qui était un dispositif ad hoc qui avait été pérennisé au Tchad. Donc épervier disparaît et l'état-major de la force Barkhane est installé à N'Djamena. Donc ça, c'est un élément important, à mon avis, à mettre en relief. Je pense que...
Alors, N'Djamena qui est évidemment au Tchad, et on peut dire que c'est une immense base de l'armée française, notamment une base aérienne, et on absolument peut rappeler que, voilà, on sait que la projection aérienne est extrêmement importante dans Barkhane. Il rayonne à partir de N'Djamena, parce qu'il suffit de regarder une carte,
on voit
que c'est très loin, mais c'est très central pour l'ensemble de l'Afrique centrale, disons.
Oui, absolument. Et la façon dont c'est perçu localement, je pense qu'à l'époque, c'est un petit peu difficile hein, de se recentrer là-dessus. Ce sont surtout les groupes dits patriotes qui protestent, qui condamnent la France. Je pense très sincèrement que la population dans son ensemble reste quand même sur l'image initialement positive de l'opération Serval et a des attentes vis-à-vis de la France. Et je pense que ce qui s'est passé, étrangement, et on sort de cette phase pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus préoccupant, parce que depuis quelques mois, enfin, je reviendrai là-dessus, mais les choses se sont vraiment aggravées. Mais moi, ce que j'ai vu progressivement s'insinuer, c'est un doute, en fait. C'est un scepticisme. Beaucoup parlaient de sentiments anti-français pendant très longtemps, sincèrement. Moi, je ne l'ai pas perçu de cette façon-là. J'ai vu, effectivement, poindre, puis s'affirmer un rejet de la politique étrangère de la France, croissant, et fondé vraiment sur cette idée selon laquelle, mais avec tous les moyens déployés, comment se fait-il que la crise s'aggrave? Parce que ce qui s'est produit, c'est que la crise du Nord, en réalité, a migré vers le centre du pays. Et celui-ci est devenu l'épicentre de la crise, avec l'apparition d'un foyer autour de l'une des katibas du Gessim, que j'ai pas présenté, mais sur lequel je vais revenir tout de suite. Donc la katiba du Massina, autour d'un prêcheur d'origine peul, qui s'appelle Amadou Koufa. Et les problématiques du centre ne sont absolument pas celles du nord. C'est pour ça que quand on entend dire que la solution à la crise malienne, c'est l'application de l'accord de paix pour l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, pardon, signé en mai-juin 2015, c'est faux. C'est la solution pour le Nord.
Oui, c'est un accord qui a été fait pour le problème du Nord.
Pour le problème du Nord,
or, le problème a changé.
Absolument pas pour le problème du centre du Mali, et encore moins pour la crise qui ensuite s'est étendue au Burkina Faso et à l'est du Niger. Cet accord ne traite absolument pas de ces questions. Et crise qui a tendance à s'étendre maintenant vers le sud du pays, vers la frontière sénégalaise, voire vers les frontières ivoiriennes, ghanéennes, béninoises.
Alors justement, parlons-en de ce problème vraiment politique. J'aimerais qu'on entre dans les dynamiques aussi finement que possible, c'est-à-dire même à l'échelon local, c'est-à-dire... Voilà, donc il y a des djihadistes qui ont fait allégeance à Al-Qaïda pour certains. Enfin, on sait que c'est une galaxie, mais bon, globalement, ça fonde...
La galaxie est assez simple et je pense que c'est important quand même de la présenter. La galaxie, elle s'est simplifiée au fil du temps, puisque les premiers mouvements... djihadistes dont j'ai parlé se sont pour la plupart réunis au sein du groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans, le Gessim, Jnim en arabe, que pour une raison mystérieuse l'armée française ou les autorités françaises appellent le RIVM, sigle qui ne parle absolument à personne. Pour moi, ça fait partie des très très grosses erreurs de communication.
D'une manière générale, les acronymes dans l'armée française, c'est tout un chantier.
Ah ça, je connais ça, mais c'est très très étrange quand même d'utiliser un acronyme qui ne renvoie à rien pour les acteurs locaux. Voilà, quand on dit, même moi, hein, qui travaille beaucoup sur ces questions-là, la première fois que j'ai entendu RIVM, je me dis, mais enfin, de quoi s'agit-il, ce nouveau groupe? Enfin, c'est très étrange, et d'ailleurs, on l'emploie quasiment plus. Hein. Mais... Donc, il y a réunion d'ACMI, hein, Al-Qaïda au Maghreb islamique, du groupe de Yad Aghali, la fameuse personnalité dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle Ansardine, de la Katiba du Massina, donc ce groupe du centre, et d'une partie du groupe Al-Morabitoun, qui est en partie issu du Moujao dont je parlais, et qui lui-même se scinde en deux avec le porte-parole du Moujao, donc le fameux Adnan Abou Walid al-Sahraoui, qui fait sécession et qui décide de prêter allégeance à l'État islamique. Donc c'est pour ça que vous avez aujourd'hui, mais à partir de groupes qui étaient à l'origine alliés, ces deux acteurs majeurs qui sont d'un côté les groupes affiliés à Al-Qaïda et de l'autre, les groupes affiliés à l'État islamique.
Alors, on reviendra dans une seconde sur la bipartition et sur les relations, est-ce que ça a fait ou pas. Mais simplement pour rester sur la dimension politique locale, c'est-à-dire il y a des gens qui sont armés, mais c'est des gens qui subissent des lourdes pertes, puisque c'est ce que fait l'armée française notamment, et puis les armées de la région, c'est décapiter ces groupes, c'est éliminer les bandes armées, etc. Et pourtant, elles restent là. C'est-à-dire elles réussissent à recruter, elles réussissent à se pérenniser, et vous l'avez dit, la crise migre, mais elle s'aggrave. Donc ma question, c'est quels sont les ressorts politiques, locaux, où est-ce qu'ils recrutent, qui est-ce qu'ils recrutent et pourquoi est-ce qu'ils réussissent à les recruter dans la région, qui forme les troupes d'ACMI, l'État islamique, on en reparlera après, mais qui forme le vivier, disons, de ces bandes.
Ce qui est extrêmement important, alors je vais répondre à vos questions, mais c'est de se rendre compte que la crise ne s'aggrave pas seulement parce que ces groupes djihadistes, effectivement, font preuve d'une capacité réelle et profonde de régénérescence et de résilience, elle s'aggrave aussi parce que les acteurs de cette crise sont en réalité multidimensionnels. C'est-à-dire que la progression de ces groupes crée aussi au sein des communautés des réflexes d'autodéfense. Et on voit se développer un phénomène de milicianisation, de communautarisation de la sécurité qui va beaucoup peser justement sur ces dynamiques politique, à la fois au niveau extrêmement local et au niveau plus national. Si on prend le cas du Burkina Faso, vous avez par ailleurs le problème qu'on évoque très souvent et qui a un lien avec votre question, qui est celui de la criminalisation du conflit. On fait souvent le lien en disant oui, groupe terroriste égale groupe de trafiquants. Non, les relations sont beaucoup plus complexes, apparaissent être beaucoup plus ponctuelles et non pas structurelle, mais la criminalité devient aussi un facteur endémique dont les premières victimes sont les populations. Et c'est une criminalité qui n'est pas faite que de trafic de drogue dont on peut parler ici. C'est aussi une criminalité qui joue sur le quotidien de ces populations qui se voient attaquées, spoliées de leurs troupeaux, spoliées de leurs récoltes, interdites d'accès au marché. Donc ça, ça joue aussi. Et autre acteur qui apparaît pour complexifier cette galaxie d'acteurs, pas uniquement djihadistes une fois encore, ce sont les armées elles-mêmes qui vont se rendre pour certaines de leurs unités, et non pas dans leur totalité, ça j'y insiste, coupables de violations des droits de l'homme, ce qui va dresser certaines communautés contre elles.
Donc c'est une sorte de cercle vicieux. Il y a ce problème djihadiste qui fait que tout le monde s'arme, ce qui fait que la criminalité a tendance à s'aggraver, personne ne se sent en sécurité, ce qui fait que l'armée arrive, mais l'armée en plus ne résout pas le problème, puisque eux-mêmes
parfois font des exactions qui dressent les communautés les unes contre les autres et qui réactivent certaines tensions ancestrales, séculaires, très souvent articulées autour de la gestion locale des ressources et qui alimentent elles aussi le djihadisme. Parce que, et c'est là que j'en viens à votre question, là, la très grande habileté de ces groupes a été leur capacité à s'ancrer dans l'environnement local qu'elles maîtrisaient parfaitement. Parce que les chefs, alors c'est le cas d'Abdou Walid al-Sahraoui un peu différent, puisque comme son nom l'indique, il venait du Sahara occidental, mais il a eu comme leader cette intelligence sociétale, sociale, et tout comme ses concurrents d'ACMI, cette capacité à se greffer, y compris sur certaines tensions préexistantes. Et ça, c'est un élément qui est absolument fondamental. Et pour en revenir à cette question de la dimension politique, je pense que ce qui est insuffisamment pris en considération par les partenaires extérieurs, alors bien entendu par la France, mais à mon avis par d'autres partenaires, et pas seulement militaires, hein, ça peut être aussi des partenaires civils au développement, c'est la façon dont se sont reconstitués au cours des années des systèmes de gouvernance extrêmement différenciés d'un point de vue territorial. C'est-à-dire que ce qui s'est mis en place dans le nord du Mali, plutôt autour des groupes signataires des accords de paix, donc non djihadistes, qui eux-mêmes sont en compétition les uns avec les autres, parce qu'il y a les groupes signataires dits pro-Bamako, qui appartiennent à ce qu'on appelle la plateforme, et en face, les groupes signataires de la CMA, la coalition des mouvements de l'Azawad, qui sont perçus comme opposés au gouvernement de Bamako, mais tous sont signataires de ces accords. Et aujourd'hui, ce sont eux, tous ces groupes, qui contrôlent la gouvernance dans le nord du pays. Et cette gouvernance n'a rien à voir avec celle qui s'est mise en place, par exemple, autour du groupe de la Katiba d'Amadou Koufa, la Katiba du Massina, qui a mis en place une gouvernance très axée sur la régulation de l'accès aux ressources naturelles, ce qu'on appelle l'accès aux bourgs gouttières, au delta du Niger, etc. Ce qui a été aussi à l'origine des conflits entre cette Katiba, donc affiliée à ACMI donc, et au GSIM, et l'État islamique, puisque certaines des règles qui ont été mises en place, notamment une tentative avortée d'instaurer une régulation des ressources fondée sur la charia et non plus sur les règles coutumières a provoqué le départ d'un grand nombre de combattants de la Katiba du Massina pour rejoindre l'État islamique. Et donc pour terminer, on voit très bien que toutes ces logiques très locales auxquelles s'additionne la capacité de ces groupes à administrer la justice dans un système où elle n'existe plus, on voit très bien que toutes ces dynamiques échappent à l'État central. Et c'est pour ça que quand on entend parler de cette fameuse question des négociations, donc de cette approche politique du conflit, à mon avis, on a tort de l'envisager comme une négociation qui serait comparable à ce qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire des traités de type traité de Versailles, c'est-à-dire qui impliquerait une négociation des groupes djihadistes avec l'État malien. Ce dont il s'agit est beaucoup plus complexe que ça. En réalité, je pense que la complexité de la gouvernance qui s'est mise en place depuis le début de ce conflit, qui fait que des portions entières du territoire échappent à l'État malien, mais ne sont pas, contrairement à ce qu'on peut entendre, y compris du président Macron, qui parle d'anomie. Non, on n'est pas du tout dans une anomie. L'État est remplacé par d'autres acteurs, en réalité. Et c'est avec ces acteurs que des accords se sont mis en place d'ores et déjà de manière très locale. Donc, les négociations, de toute façon, elles existent. Certaines accompagnées par l'État, d'autres accompagnées d'ailleurs avec un mandat de l'État, d'ailleurs par le Haut Conseil islamique, d'autres beaucoup plus locales qui peuvent faire intervenir des groupes d'autodéfense, par exemple Dogon, avec des groupes djihadistes. Donc toutes ces dynamiques politiques existent. Et lorsque la France, par le biais de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, indique qu'elle est fondamentalement opposée à toute négociation et que le Premier ministre de la première transition lui répond « oui, vous pouvez y être opposé, mais nous, c'est en réalité notre approche », je pense qu'éclate là, au grand jour, un contentieux qui avait commencé plus tôt, qui avait commencé sous Ibeka. Moi, je reste absolument convaincue que la détermination d'Ibeka à mettre en application les recommandations d'une part de la Conférence nationale d'entente qui avait eu lieu en 2017 et ensuite du dialogue national inclusif qui avait eu lieu fin 2019, qui incitait à engager un dialogue et des pourparlers avec tous les fils du pays, y compris ceux appartenant aux groupes armés radicaux, est à l'origine des premières difficultés profondes expérimentées par la France et le Mali dans leurs relations diplomatiques. Et ça, c'est juste avant le sommet de Pau.
Alors, on va revenir sur tout ça parce que là, on a avancé assez vite, mais justement, il faut. Alors, D'une part, ça me fait penser, on reviendra sur le parallèle avec l'Afghanistan, mais c'est évidemment, ça fait évoque des choses, par exemple, qu'on a évoqué ici avec Adam Bachko, où il nous a dit que, par exemple, en Afghanistan, on avait souvent l'impression que c'est une guerre civile, c'est une absence de droit. Or, en fait, c'est au contraire une profusion de droits qui sont concurrents et qu'il faut réussir à imposer, et que c'est celui qui réussit à faire reconnaître son droit, en l'occurrence les talibans en Afghanistan, réussit à gagner du terrain. Mais alors, justement, parlons-en de cette dimension politique, puisqu'on était resté sur Ibeka au Mali, donc Ibrahim Boubacar Keïta, qui a été le Premier ministre à partir de 2013. Il faut peut-être dire que voilà, il y a une crise politique qui se redéclenche, notamment parce qu'il y a des contestations croissantes, notamment sur fond de cette présence française, Ibeka qui est décrit comme un agent de l'État français, enfin comme un valet des intérêts français.
Paradoxalement, justement.
Paradoxalement, mais...
Alors que la mésentente était d'ores et déjà assez profonde.
Mais alors, on peut dire déjà la fin de cette histoire, c'est qu'en août 2020, Ibeka est renversé par un coup d'État militaire, le colonel Assimi Goïta. Mais donc, c'est-à-dire, d'où vient cette contestation? Et pourquoi est-ce qu'elle aboutit? Comment est-ce qu'elle aboutit, en quelque sorte?
Alors justement, vous faites bien de dire voilà, que le renversement d'Ibeka est le fruit d'un mouvement de contestation qui porte sur la gouvernance d'Ibeka. C'est pour ça que moi, je suis quand même...
Ibeka, il est vraiment arrivé au moment de Serval, quoi. Il prend le pouvoir à ce moment-là et il le garde jusqu'en 2020. Donc c'est lui qui est aux manettes du Mali pendant tout le moment Serval puis Barkhane jusqu'en 2020.
Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intervention française, elle s'accompagne aussi, vous allez voir où je vais en venir, elle s'accompagne aussi de la mise en place de programmes de renforcement et de réforme de l'armée malienne, y compris dans le cadre des fameuses missions européennes, notamment la mission militaire qui s'appelle IUTM. Et il y a notamment, sous la houlette de la France, le vote d'une loi très importante, s'appelle la LOPM, la loi d'orientation et de programmation militaire, qui va donner lieu à d'énormes détournements. D'énormes détournements. Et le régime d'Ibeka, notamment ses proches, y compris son fils, qui était président de la commission défense-sécurité de l'Assemblée nationale, donc qui était censé incarner quand même le pouvoir de supervision de l'exécutif, donc on voit que les relations étaient très incestueuses, se trouve effectivement pris dans un mouvement de contestation qui non seulement dénonce effectivement la corruption, vous avez des leaders comme Clément Dembélé, il y a notamment hein, un blogueur, vous avez d'autres figures, enfin des enquêtes sont lancées très tôt d'ailleurs, il faut le dire, les institutions maliennes, y compris l'institution qui s'appelle le vérificateur général, qui est l'équivalent de la Cour des comptes, produisent des rapports parlant de ces détournements dès 2014, donc vraiment de manière très très précoce. Et la contestation en effet prend de l'ampleur et s'accompagne d'une remise en cause des mœurs qui sont associées aussi au régime d'Ibeka. C'est-à-dire que, notamment, certaines vidéos circulent montrant ses proches, là aussi, son fils sur des yachts, en compagnie de prostituées, etc. Et si j'en viens à cet élément-là, c'est qu'émerge à cet instant un personnage qui a déjà joué un rôle très important par le passé, qui à mon avis va encore en jouer un dans le futur, qui est l'imam Diko, qui était l'ancien président du Haut Conseil islamique du Mali et qui se présente comme une figure morale et qui fait un mea culpa puisqu'il faisait partie des personnalités qui avaient appelé à soutenir Ibeka, à le faire élire, etc. et qui s'allie à une coalition extrêmement hétéroclite, faite d'anciens ministres d'Ibeka, faite d'organisations de la société civile et de partis d'opposition, qui se réunissent tous dans un mouvement qui s'appelle le M5-RFP, le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques. Et c'est ce mouvement populaire qui est quand même très incarné à la fois par la figure de l'imam Diko, d'autre part par celle de Shogel Maïga, qui, depuis quelques mois, est devenu le Premier ministre du pays, porte cette vague qui prend de l'ampleur jusqu'au mois de juillet, où le point culminant en termes dramatiques est le moment où la force antiterroriste, qui a quand même été formée par les partenaires occidentaux, tire sur la foule. Sont les seules violences, hein, les seules morts hein, qu'il y aura, c'est quand la Forsat tire sur les manifestants. Et finalement, ce mouvement populaire se fait, si je puis dire, doubler par un coup d'État militaire, effectivement, qui intervient le 18 août 2020.
Alors, on va revenir évidemment sur la situation politique, parce que bon, vous avez parlé de Shogel Maïga, et, enfin, c'est les tensions de ces derniers jours, de ces dernières semaines qui sont polarisées autour de ce Premier ministre. Mais simplement, puisqu'on a dit que ça n'était pas qu'un problème national, c'était un problème régional, on peut dire que un des efforts, notamment de la France, ça a été de se rendant quand même bien compte dans leur infinie sagesse des échecs globaux de la contre-insurrection quand c'est fait par une armée étrangère. Un des efforts, ça a été de réussir à faire en sorte que les pays prennent de plus en plus ces opérations-là en charge. Notamment, c'est la formation du G5 Sahel en 2017, on revient un petit peu en arrière, avec cette idée que bon, c'est une menace transnationale, il faut donc un groupe transnational pour le combattre, qui pourrait être appuyé par les armées occidentales, mais il ne faut pas que ce soit les armées occidentales qui soient toujours en première ligne. Alors, déjà, peut-être, comment est-ce que ça se met en place? Et disons, comment est-ce que ça marche concrètement depuis bientôt 5 ans, ce G5 Sahel?
Alors, en réalité, le G5 Sahel n'est pas créé en 2017. C'est sa force conjointe qui est mise sur pied en 2017. Le G5 Sahel est créé en 2014. Et il faut comprendre la logique première de création de cette nouvelle organisation multilatérale, puisque c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Vous avez, j'en ai parlé tout à l'heure, cette organisation régionale sous-régionale qui s'appelle la CDEAO, qui réunit 15 États membres, sauf la Mauritanie, qui a décidé de la quitter en 2000. Donc la Mauritanie, qui est quand même un acteur important, puisqu'elle est voisine du Mali, puisqu'elle a expérimenté aussi sur son sol des enlèvements, des attaques, ne veut absolument pas être exclue de la gestion de la crise sahélienne. Elle voit très bien que l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, est complètement paralysée de toute façon par le conflit entre le Maroc et l'Algérie autour du Sahara occidental, que l'Union africaine, qui a pris un certain nombre d'initiatives, notamment une initiative qui rassemble 11 États, ne va pas réussir à peser sur le processus. Donc c'est elle qui impulse ce mouvement de création d'une nouvelle organisation, alors que les autres États du Sahel central, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, avaient décidé de s'appuyer sur une autre organisation d'ores et déjà existante, qui est l'autorité intégrée du Liptako Gourma, et de mettre sur pied une force armée réunissant les contingents de leurs trois pays.
Donc la Mauritanie veut revenir, donc il faut créer une organisation.
Les partenaires extérieurs, et particulièrement la France, n'ont plus envie de travailler ni avec l'Union européenne, ni avec la CDEAO, qui, effectivement, se sont révélés incapables en 2012 de mettre sur pied une force d'intervention. Parce que il faut savoir aussi que l'intervention de Serval, elle se produit aussi parce que les forces africaines n'ont pas réussi à se mettre d'accord, y compris au niveau de l'ONU, hein, pour mettre sous mandat des contingents africains qui seraient intervenus dans le cadre de la fameuse architecture africaine de paix et de sécurité. Donc il y a cette défiance, et donc la France, effectivement, décide d'appuyer ce projet mauritanien, ce qui, à mon avis, était extrêmement périlleux, parce que, justement, ce n'est pas une force qui a été créée, c'est une organisation multilatérale avec tout ce que cela signifie de procédures à titre budgétaire, à titre administratif, à titre bureaucratique au sens propre du terme, à titre organisationnel. Donc, cet organe s'est mis en place en marchant. Donc moi, il me semble qu'il était quand même extrêmement illusoire de penser qu'une organisation non créée encore allait pouvoir avoir un impact immédiat sur la gestion de cette crise. Et l'on en vient à l'une des difficultés, pour moi, ça a été la superposition des structures, encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'après chaque sommet, et pas seulement sommet sur la région, vous avez même le sommet du G7, hein, qui a annoncé la création d'une autre structure qui s'appelle le P3S, hein, c'est le partenariat pour la stabilité, la sécurité au Sahel, qui bénéficie d'un secrétariat à Bruxelles. On a créé l'Alliance pour le Sahel, là, qui portait pas sur la défense, mais sur le développement. On a décidé ensuite qu'il fallait, qu'effectivement le dispositif était quand même un petit peu compliqué, donc créer une structure pour chapeauter tout ça, c'est la coalition actuelle, la coalition internationale pour le Sahel, qui a elle-même été dotée d'un secrétariat permanent, dirigé par un secrétaire permanent qui est lui-même installé désormais à Bruxelles. Au grand dam du G5 Sahel lui-même, qui ne comprend pas pourquoi on ne lui a pas confié la tâche, ce qui aurait été quand même logique aussi, de coordonner tout ce dispositif. Donc ce qu'il faut mesurer, c'est qu'on parle beaucoup de l'échec, ou en tout cas du succès limité, ou en tout cas de l'impact absolument non déterminant de l'intervention militaire, mais on oublie que tout un dispositif, un monstre institutionnel en réalité, a été également construit autour de tout ça et qui implique aussi des acteurs civils. Et à mon avis, c'est aussi l'une des grandes leçons à tirer de cet élément, de cette approche. Poursuivre sur la question que vous posez de cette fameuse formation. C'est comme les initiatives, si vous voulez. Au bout d'un moment, le mot de formation n'a plus de sens, en fait. Parce que, pour moi, on nous parle... Alors, à chaque fois qu'il y a une difficulté, on crée une nouvelle structure. Et du point de vue militaire, civil aussi d'ailleurs, très souvent, on dit... Ah ben la solution, de toute façon, on va les former. On l'entend de la part des plus hautes autorités très souvent. Or, pour moi, le problème originel est que ça ne fait pas 8 ans qu'on forme ces armées. Ça fait 40 ans qu'on forme ces armées. Et le constat n'a pas été établi en 2012. Quel était l'état de ces armées en 2012? Donc, quelles étaient les leçons apprises des décennies de coopération qui avaient précédé. Ce diagnostic me paraît indispensable à faire. Il a été fait dans le cadre d'un rapport qui était destiné à alimenter justement cette fameuse LOPM dont je parlais, la loi d'orientation de programmation militaire. Il n'a jamais été rendu public. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a absolument pas inspiré l'approche. Parce que qu'est-ce qu'on enseigne à ces armées ? On leur enseigne, et c'est vrai pour la France, mais c'est vrai pour tous les partenaires. C'est vrai pour les États-Unis notamment, et je pense même que c'est vrai pour les Russes, hein, dont on parle beaucoup, dont on va sans doute reparler. Qu'est-ce qu'on leur enseigne? On leur enseigne des approches doctrinales qui sont totalement inadaptées au contexte conflictuel actuel. Alors, vous parlez de l'Afghanistan. Alors, et là, moi non plus, je ne me situe pas dans une perspective décoloniale, mais on se pose quand même la question. Peut-on sérieusement penser que des approches en termes de contre-insurrection, dont l'origine remonte à la fin du 19e siècle et au début du 20e, sont adaptées pour gérer des conflits des 20 premières années du 21e siècle? Mais ça paraît presque absurde en le disant, mais malheureusement, ce à quoi on assiste, et de la part de tous les partenaires étrangers, c'est à des approches qui sont effectivement appliquées en matière de formation, mais qui ont également des conséquences sur le type d'équipement dont les armées ont pu être dotées, qui sont notamment, en effet, axées autour de cette approche en termes de contre-insurrection qui a démontré son échec absolument partout dans le monde depuis les guerres des indépendances, donc quand même depuis 1960, que ce soit à Saïgon, que ce soit ensuite, pendant la guerre du Vietnam, en Afghanistan, déjà, ensuite en Irak, en Syrie, et on continue à fonder cette approche sur, quelque part, cette idée de pénétration pacifique qui repose aussi sur une alliance entre l'instrument militaire et l'instrument civil, sans voir que les règles ne sont absolument plus les mêmes. On n'est pas dans un contexte où on est là pour soumettre les populations. Moi, quand j'entends encore employer à tout bout de champ, y compris par des acteurs civils et des acteurs des ONG, oui, l'objectif, c'est la conquête des cœurs et des esprits, mais je trouve ça extrêmement choquant, en réalité. Parce que le contexte d'aujourd'hui, c'est celui de la responsabilité de protéger. Ce sont les normes qui s'imposent en réalité à tous les acteurs. Donc on ne peut pas faire fi de cette sorte de contradiction qui existe entre différents schémas. Et pour moi, ça explique aussi beaucoup l'échec auquel on assiste aujourd'hui. On veut être dans l'opérationnalité, on veut renforcer les capacités de combat. Premièrement, on le fait en s'appuyant sur des doctrines qui sont inadaptées, qui ne maîtrisent absolument pas les contextes locaux. Moi, je pense qu'on a affaire à une grande supériorité technologique et à un très grand professionnalisme de la part des acteurs, y compris de la part de l'armée française, mais qu'on se heurte à une immense méconnaissance de la façon dont fonctionnent ces environnements locaux. Ça, j'en suis absolument persuadée, et ça, de la part de tous les acteurs, et ça concernera sans doute les Russes. Mais on oublie aussi, juste pour terminer, que renforcer les capacités d'une armée, ce n'est pas seulement renforcer ses capacités opérationnelles de combat, c'est aussi travailler sur sa gouvernance. Et le scandale de détournement de fonds dont je parlais à propos du Mali, il s'est produit de manière beaucoup plus grave encore, au Niger, en 2020 aussi, un scandale révélé par l'inspection générale de l'armée elle-même, à la suite d'un audit. Le ministre de la Défense du Burkina Faso a été mis aux arrêts suite aux révélations d'une organisation de la société civile sur les détournements auxquels il avait procédé. Quand vous ajoutez ça à la troisième dimension, qui est celle de la violation des droits de l'homme, comment peut-on continuer à considérer qu'on renforce des armées alors que ces deux éléments ne sont pas pris en compte ?
Mais ce qui est intéressant, c'est que si je me place d'une seconde du point de vue, disons, des armées françaises, ou en tout cas de la réflexion politique française, et il y a un truc problématique, vous indiquez qu'en gros on verse énormément d'argent dans des armées qui ne fonctionnent pas, qui sont cassées depuis 40 ans, et qui ne s'améliorent pas, et que donc les problèmes ne s'améliorent pas, et même ils ont tendance à s'empirer. En même temps, le problème, c'est que c'est difficile de... Enfin, c'est la position de grand frère un peu paternalisante...
La fraternité d'armes, ouais.
Oui, non mais c'est ça, enfin, je veux dire, ce serait compliqué aussi d'arriver, de faire la leçon à ces armées-là, et de leur imposer de changer, en termes de position des armées occidentales, en l'occurrence françaises, par rapport à des écosystèmes politiques et politico-militaires locaux.
Bah oui, mais qu'est-ce qu'on cherche ? Pourquoi avoir peur de leur imposer de changer s'ils ne veulent pas changer ? Moi, ça ne me choque absolument pas qu'on dise « nous ne travaillons plus ensemble ». On n'est pas là dans une logique d'assistanat. Pour moi, les armées, notamment l'armée française, elle défend les intérêts de la France. Moi, je n'ai aucun problème là-dessus. C'est pas l'ONU. Hein, même si moi, à titre personnel, je travaille plutôt pour promouvoir des normes, des principes qui relèvent davantage d'un système multilatéral. Mais aujourd'hui, je pense que la difficulté, cette contradiction, pourquoi continuer ? D'ailleurs, on voit très bien que les Américains ont décidé d'arrêter au bout d'un moment. Est-ce qu'on va continuer à faire comme si on ne voyait pas ? Parce qu'en réalité, moi, tout ce que je dis, je pense que je n'apprends, enfin, je suis même... intimement convaincu que je n'apprends absolument rien à n'importe quel attaché de défense, à n'importe quel coopérant militaire qui sait très bien que les armées dont on parle sont gouvernées par des logiques extrêmement hybrides, avec des chaînes de commandement parallèles, avec des phénomènes de redistribution qui se font sur la base des différentes allégeances à l'intérieur même de l'armée, autour de principes de redistribution qui permettent aussi d'asseoir du pouvoir interne. Donc pourquoi continuer à intervenir comme si l'on travaillait avec l'armée d'un autre pays occidental. Ce n'est pas le cas. Donc, si l'on veut continuer effectivement à dépenser de l'argent, sacrifier malheureusement aussi des hommes, apparemment, c'est ce qu'on continue à faire. Mais moi, je ne vois pas en quoi c'est difficile de dire effectivement, c'est impossible de travailler avec vous parce qu'effectivement, les comportements ne correspondent pas à ce qu'on est en train de pousser. Et on voit très bien aujourd'hui qu'il y a un échec. Alors on peut dire, oui, ce sont les autorités qui sont de mauvaise foi, qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités, mais on voit bien que ce sont des systèmes, en vérité, qui fonctionnent de manière extrêmement complexes, qui ne peuvent pas se réformer par le seul biais de la formation, ou voir, puisque c'est l'un des autres axes qui a été mis en avant notamment par la mission IUTM, ou par la simple informatisation par exemple de la chaîne de paye, etc. Parce qu'il y a des hommes derrière les machines, donc ça non plus, ça ne résoudra pas nécessairement le problème. Donc une fois de plus, acceptons de regarder le contexte dans lequel on intervient, de le comprendre, de l'analyser, et c'est ensuite qu'on pourra forger des instruments. Mais continuer à utiliser des outils qui ont démontré en tout temps, en tout lieu finalement, depuis 70 ans leur inefficacité, je comprends que certains puissent trouver ça absurde, y compris en France.
Alors justement, cette tentation d'arrêter les frais, en quelque sorte, ou en tout cas d'éviter de remettre une pièce dans une machine qui fonctionne mal à chaque fois, ça nous amène évidemment à la situation actuelle et aux pistes de sortie éventuelles. Parce qu'on peut souligner par ailleurs que le colonel Goïta a fait un deuxième putsch au Mali en mai 2021, et que ça a amené la France à suspendre temporairement la coopération militaire avec l'armée malienne, mais que ensuite, à quelques jours d'intervalle, quelques jours plus tard, le 10 juin 2021, Emmanuel Macron annonce la fin de l'opération Barkhane.
Parce que le temps est venu. La poursuite de notre engagement au Sahel ne se fera pas à cadre constant. Nous allons, avec nos partenaires engagés à nos côtés, mais aussi avec les pays de la région, parce que j'ai toujours eu ce souci de les associer et de travailler avec eux, tirer les enseignements de ce qui a fonctionné, notamment les évolutions que nous avions impulsées justement à Pau puis à N'Djamena, mais tirer aussi les enseignements de ce qui n'a pas fonctionné. La présence durable dans le cadre d'opérations extérieures de la France ne peut pas se substituer au retour de l'État et des services de l'État, à la stabilité politique et au choix des États souverains. Nous ne pouvons pas sécuriser des zones qui retombent dans l'anomie parce que des États décident de ne pas prendre leurs responsabilités. C'est impossible. Ou alors c'est un travail sans fin.
Bref, tout ça cristallise donc non seulement les problèmes politiques, mais aussi le désir français donc de sortir de l'impasse. Et la question sont donc les pistes. Évidemment, c'est pas un retrait strict qui laisserait le champ libre aux djihadistes, mais ce qui est évoqué, c'est notamment la montée en puissance de la Task Force Takuba, qui est un groupement de forces spéciales des armées européennes. Alors ça le mérite théoriquement de sortir la France un peu de l'ornière, mais déjà, ça pose évidemment des problèmes sans nombre, déjà parce que ça implique une défense européenne, ce qui est un des rares problèmes qui n'a rien envié au Sahel en termes de complexité, mais aussi parce que ça implique que l'aide étrangère puisse se réduire à des forces spéciales, donc on voit l'idée des actions ciblées pour éliminer des chefs djihadistes, mais rien ne garantit que ça résout vraiment durablement le problème, en fait, puisqu'il faut aussi occuper le terrain pour éviter les actions djihadistes, qui sont souvent très mobiles, etc., et résoudre les problèmes politiques, et ça, c'est pas les forces spéciales européennes qui vont le faire, a priori. Donc Disons, cette phase dans laquelle on est de retrait, et on essaye de recalibrer les choses, on essaye de multilatéraliser, mais en même temps sans grande garantie, comment est-ce que vous la voyez sur fond de scène politique malienne qui, de toute évidence, est plus chaotique que jamais ?
Alors justement, vous avez tout à fait raison, à mon avis, de rapporter la question toujours à cet élément politique. C'est-à-dire qu'en effet, les relations qui, comme je l'ai indiqué, étaient déjà très détériorées entre les autorités françaises et maliennes autour de cette question des négociations se sont de nouveau tendues lorsque le colonel Goïta a décidé de mettre fin au mandat des autorités civiles de la transition, donc du président et du premier ministre civil, en s'autoproclamant lui-même président de la transition. Mais et effectivement, ce qui a mis très en colère les autorités françaises. Mais quand est-ce qu'est intervenu, enfin à quel moment, c'était le 24 mai en l'occurrence 2021, mais à quel moment correspond cette prise du pouvoir d'Assimi Goïta ? Elle intervient quelques semaines après la prise de pouvoir au Tchad par le fils du président défunt Idriss Déby, qui prend la tête d'une junte militaire, avec l'assentiment, certains disent même de manière beaucoup plus méchante que moi, l'adoubement d'un régime inconstitutionnel. Et cela, de manière encore plus grave, avec l'aval de l'Union africaine. C'est-à-dire que, bon, effectivement, ce qui, à mon sens, constitue une erreur, ce à quoi des représentants de la diplomatie française ou de l'armée française me répondent que non, c'était une excellente décision, puisque la stabilité du Tchad a été préservée. C'est une façon de voir les choses. Moi, c'est vrai que j'étais extrêmement choquée, bon, d'abord, effectivement, par cette prise de position de la France, mais plus encore par celle de l'Union africaine et en pensant que ça ouvrait la boîte de Pandore. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
Juste pour replacer la logique, on peut rappeler ce qu'on a dit tout à l'heure, que le quartier général de Barkhane, c'est N'Djamena.
On
comprend l'inquiétude.
Si vous voulez, je finis mon raisonnement. Moi, je n'ai aucun problème avec une politique réaliste. Je n'ai aucun problème. Les États n'ont que des intérêts, à mon sens. Ils n'ont que des intérêts. Mais quand ils essaient de jouer sur le normatif, il faut qu'ils soient crédibles. Et évidemment, lorsqu'on a considéré que le coup d'État constitutionnel intervenu au Tchad préservait la stabilité, ben c'est quand même très très difficile d'aller dire 3 semaines après « Ah mais non, mais au Mali, c'est différent ». Quand on défend des principes, on défend des principes. Et quand on considère que la CDEAO prend une position beaucoup trop faible par rapport à ce qui s'est produit, mais c'est tout simplement la réplique exacte de la position qui a été adoptée par l'Union africaine quelques semaines avant. Donc soit on s'appuie effectivement sur de la réelle politique, soit on est suffisamment habile pour savoir utiliser les principes et les normes. Et on voit là qu'on est très dépassé quand même dans cette approche-là. Parce que, qu'est-ce qu'on dit ? On dit coup d'État inadmissible, nous arrêtons la coopération qui reprend évidemment quelques semaines plus tard. L'annonce de la fin du dispositif Barkhane, effectivement, intervient avec l'idée selon laquelle le dispositif qui va se mettre en place va non seulement s'articuler, comme vous l'avez dit, autour de la Task Force Takuba, mais également autour de la mission IUTM, qui a démontré son inefficacité quand même depuis 8 ans. Donc quand on entend qu'on continue dans le même sens, on se demande si vraiment les choses vont être en mesure de changer. Et il y a également présenté un déplacement vers le territoire du Niger. Mais comme vous le dites, les deux volets, ce sont européanisation d'un côté avec Takuba et sahélisation à travers toujours cette idée de renforcement des capacités des armées sahéliennes qui vont prendre le relais grâce à l'IUTM. L'IUTM dont les limites sont quand même soulignées dans le rapport de l'Assemblée nationale sur l'opération Barkhane. Hein, c'est quand même intéressant, ce rapport qui, par ailleurs, estime que l'opération Barkhane est un succès, mais ce rapport souligne toutes les limites de l'IUTM. Donc, et on voit très bien, comme vous le dites, que l'appétence des pays européens pour rejoindre cette task force Takuba, qui, il faut le préciser, hein, vous l'avez bien dit, n'est pas la force de l'Union européenne, hein, c'est une force
sur la base du volontariat.
Sur la base du volontariat et sur la base d'un accord politique qui réunit, d'une déclaration politique, pardon, qui réunit 11 pays européens, effectivement. Mais il n'y a aucun lien organique avec la PESC, enfin la politique étrangère de sécurité commune ou la PSDC. Ça, c'est important de le dire. Et en effet, on reste, comme je le disais tout à l'heure, sur l'idée de renforcement des capacités de combat d'une armée, alors qu'on voit très bien que là où les choses deviennent de plus en plus difficiles, c'est au niveau politique aujourd'hui. Et au niveau politique, non pas en lien avec la problématique djihadiste elle-même, mais vraiment en raison de la structuration de la gouvernance dans la région. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'une des raisons pour lesquelles il est très difficile de travailler au sein du G5 Sahel, c'est parce que c'est justement le Tchad qui en occupe la présidence actuelle, qui est une présidence tournante. Les Français ont essayé d'inviter aimablement le Tchad à laisser la présidence à un pays plus démocratique. Ils l'ont refusé. Et il faut savoir que la prochaine présidence, qui va arriver au début de l'année 2022...
C'est le Mali ?
C'est le Mali, bien sûr. Donc vous voyez, c'est pour ça que le caractère multidimensionnel de cette crise est indispensable à prendre en considération, parce que on y revient et qu'il est absolument impossible de la réduire à de la lutte antiterroriste. C'est absolument impossible, et ça ne veut pas dire que la France doit s'immiscer dans le règlement de l'ensemble des problématiques que j'ai mentionnées, mais on voit très bien que son action est handicapée de manière très importante par justement des éléments qui ne ressortissent pas de cette question de la lutte antiterroriste. Et par ailleurs, pour terminer sur cette question-là, que signifie exactement cette lutte antiterroriste ? Le terrorisme, c'est un mode opératoire. On lutte contre un mode opératoire ou on lutte contre un ennemi ? Et la réponse à cette question, elle rend implicite la réponse. C'est-à-dire que si on lutte contre un ennemi, on lutte contre le programme politique de cet ennemi. Parce que ce à quoi on a affaire aujourd'hui, ce ne sont pas à des nihilistes assoiffés uniquement de sang. Il y a des sanguinaires, évidemment. Hein. Et c'était le cas d'Abou Walid al-Sarraoui et de plusieurs de ses lieutenants qui massacrent les populations civiles et dont le mode d'action est assez différent de celui du GNIM. Qui cherche à se présenter comme protecteur des populations. Mais en tout cas, ce qui est très important de dire, on n'a pas affaire à un terrorisme du type de celui du Bataclan. On a affaire à des acteurs, notamment côté groupe affilié à Al-Qaïda, qui ont un vrai discours politique, qui ont un vrai programme politique, une vision pour cet État, fondée effectivement sur la charia, mais pas uniquement, sur une autre vision des mœurs, sur une autre vision de l'éducation, sur une autre vision de la gouvernance locale. Et c'est à ça qu'il faut savoir répondre. Et c'est dans le cadre de cette réponse politique à un ennemi que l'action militaire, à mon sens, devrait être inscrite. Et c'est ça qui lui fait défaut.
Alors, dans ce contexte-là, il y a un nouvel acteur qui semble monter dans les mois et les semaines qui viennent de s'écouler. C'est évidemment la présence russe dans la région, qui a notamment été matérialisée par des rumeurs de coopération entre l'armée malienne et le groupe Wagner. Alors, on a fait toute une émission récemment sur la question avec Maxime Audinet et Emmanuel Dreyfus, vers laquelle on peut renvoyer, avec le rôle de matrice de laboratoire de la République centrafricaine, et il semblerait que bon, ça s'étende donc vers le nord et vers l'ouest maintenant. Mais disons, de quoi est-ce que c'est le signe, tout ça ? Est-ce que c'est le signe que la France partirait trop tôt, si tant est qu'elle parte vraiment, si on suit ce que déclarait donc le Premier ministre malien, donc Choguel Maïga, à la tribune de l'ONU début septembre, qui se plaint d'un abandon en plein vol, évidemment qui a été propos qui ont été très fortement contestés par Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut aussi considérer, ben, c'est un peu ce que vous décriviez aussi, c'est que c'est une impasse, on est dans une impasse à l'heure actuelle, que ben voilà, ça peut pas être la France, en tout cas, où il faut peut-être partir pour revenir, mais en tout cas là, tel que c'est, ça marche pas, il faut faire autre chose. Ça peut pas être personne, probablement pas à l'heure actuelle, donc ben voilà, c'est une porte ouverte à d'autres acteurs. Alors qui est-ce que ça va être? Voilà, apparemment la Russie, la Chine. Après, il faudrait voir ce qu'ils feraient sur place. Mais en tout cas, que la France doit se retirer d'une manière ou d'une autre et que ben, ça va forcément laisser la place à d'autres acteurs. Donc comment est-ce qu'on envisage, disons, cette séquence fin de Barkhane et ce qui pourrait venir après?
Alors à mon avis, attention à ne pas toujours accoler la Russie et la Chine. Parce que la position de la Chine dans la crise malienne, elle n'a rien à voir. C'est pas un acteur. C'est un acteur sur le front des opérations de paix, hein, notamment côté onusien, etc. Mais on ne peut pas la comparer à la Russie, tout simplement parce que la Russie a toujours été un partenaire historique du Mali, et notamment de son armée. C'est-à-dire qu'il faut
se souvenir... Il y a quelques jours, on a fait beaucoup de choses sur la livraison d'hélicoptères russes à l'armée malienne. C'est un contrat qui a été signé il y a déjà très longtemps.
Alors c'est très compliqué, on ne sait pas exactement ces hélicoptères, si ce sont en effet ceux qui ont été commandés par le président Ibeka en 2019, ou si effectivement, comme l'affirment les autorités actueles, ils ont été commandés au mois de janvier, ce que signifierait que la livraison a été très rapide. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quoi qu'il en soit, effectivement, en 2019, le président Ibeka avait signé un accord de coopération avec la Russie, que en 2012, le président ATT en avait signé un également, et que par ailleurs, le premier président de l'indépendance du Mali, Modibo Keïta, avait mis un terme à la coopération avec l'armée française pour embrasser le partenariat avec l'URSS et les républiques socialistes du glacis soviétique. Donc, la coopération entre l'armée malienne et l'armée russe a été extrêmement étroite jusqu'à la chute du mur de Berlin, où là, effectivement, la France, les États-Unis également sont revenus dans le jeu de la coopération militaire. Mais ce qui est très important, c'est de se rendre compte que la Russie n'est pas un nouvel acteur au Mali. C'est très différent par rapport au cas centrafricain. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, il y a cette question de Wagner en tant que tel. Alors bon, je suis pas spécialiste de la question, mais la grande difficulté qu'on a quand même par rapport à cette organisation, c'est sa qualification et son absence de cadre légal en réalité. Donc en République centrafricaine, c'est déjà très difficile de savoir de ce qui relève de la sous-traitance par l'État russe à cet acteur-là, dans le cadre d'un accord conclu entre les deux États, et ce qui relève apparemment aussi d'un accord qui aurait été conclu indépendamment. Et ça, c'est une question qui se posera évidemment pour le Mali. Mais surtout, ce qui apparaît, c'est la volonté, la capacité aujourd'hui de l'État malien à peser comme partenaire à part entière et à justement multiplier, diversifier ses partenariats. Et on se demande si cette question de la venue de Wagner n'a pas aussi été un moyen de pression utilisé par les autorités maliennes, justement, sur les autorités françaises. Quand même, le Mali est un petit pays en guerre, pauvre, qui a réussi à faire trembler l'Assemblée générale des Nations Unies et les plus grandes chancelleries occidentales et donc orientales avec la Russie. Mais est-ce que ça n'a pas été un moyen de pression sur la France? Manifestement, oui, en partie, puisque Florence Parly s'est déplacée à Bamako pour rassurer les autorités, enfin son homologue, sur le fait que la France ne partait pas, n'abandonnait pas le Mali. Et on voit qu'on est quand même dans une surenchère surenchère que les autorités maliennes se permettent quand même de franchir un certain nombre de rubicons, en tout cas un grand nombre de lignes rouges qui ont été fixées par la France, qu'il s'agisse de cette question des négociations qui continue quand même à être poursuivie de manière plus discrète, mais quand même poursuivie hein, par les autorités maliennes. Cette question de la prolongation de la durée de la transition, puisqu'il a quand même été annoncé de manière assez claire que sans doute il ne serait pas possible de tenir des élections et donc de mettre fin à la transition dès le mois de février. Et donc maintenant, de cette diversification des partenaires. Et c'est vrai qu'à chaque fois, la France a dit « c'est une ligne rouge », mais elle est encore là aujourd'hui. Et même si le ton monte, bon, on voit que le Premier ministre a un peu fait baisser la surenchère, mais est intervenu aussi entre-temps ce contentieux qui est parti apparemment pour durer, puisque le président Tebboune a fait une déclaration aussi, qui met en cause l'Algérie et les relations déjà historiquement compliquées entre la France et l'Algérie. Et l'Algérie est un acteur absolument majeur dans le contexte malien. Hein, elle considère que d'ailleurs l'accord pour la paix a été négocié à Alger, le précédent l'avait été d'ores et déjà, le déplacement du ministre des Affaires étrangères, Amdam Lamamra, à Bamako, a donné aussi le sentiment d'une alliance qui se veut là vraiment pour le coup anticoloniale, décoloniale, et il me semble qu'il y a une difficulté supplémentaire du côté de la France. C'est-à-dire que moi, qui vous disais tout à l'heure que je ne voyais pas de sentiment anti-français pendant très longtemps, mais que j'ai vu s'insinuer un doute et un très fort scepticisme, je trouve que depuis quelques semaines, il y a un discours d'une violence contre la France que je n'avais jamais vue auparavant, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la presse et que ce soit dans le discours des autorités elles-mêmes qui, bien sûr, jouent la carte populiste, la carte intérieure, hein, parce que la Russie a une certaine popularité et qu'elles se sont aussi engagées dans une politique d'opération anticorruption en associant justement à cette lutte des acteurs, des anciens ministres réputés proches de la France. Donc là, je trouve que la situation est en train vraiment de se dégrader de manière beaucoup plus préoccupante que ça ne l'était jusqu'ici. Bon, quand on regarde les réseaux sociaux, je ne fais pas que ça, hein, mais c'est très 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 frappant d'une dénonciation de la présence française très qui a pu être instrumentalisée, y compris par la Russie à un moment donné, début 2020, ou par des groupes de patriotes, je trouve qu'on franchit quelque chose qui est beaucoup plus large et qui embrasse véritablement l'opinion publique.
Mais donc, pour terminer, en quelque sorte, un problème politique, solution politique, forcément. Alors là, on voit que ça se présente pas très bien pour le rôle de la France pour aider à tout ça. C'est-à-dire, comment est-ce que vous envisagez la chose? Est-ce que, par exemple, ces négociations, mais en même temps, vous nous avez dit que ces négociations, elles fonctionnaient sur un logiciel, en quelque sorte, qui avait marché pour une partie totalement différente de la région sahélienne, est-ce que ça pourrait quand même déboucher sur quelque chose? Est-ce qu'il y a un modus vivendi à espérer, disons, entre ces groupes, entre le pouvoir central et les zones qui échappent à son contrôle? Est-ce que faut attendre que des groupes, enfin que le pouvoir central, au contraire, renonce à sa souveraineté sur des endroits? Est-ce qu'ils vont faire appel aux Russes et à qui sait-on encore pour regagner le contrôle d'une manière ou d'une autre? Comment est-ce que vous envisagez, disons, la situation au Mali? Et puis évidemment, ça connecte, ça va permettre autour, mais disons, dans les semaines et les mois qui viennent, surtout si la France, dans le contexte actuel, se trouve obligée de se retirer un peu parce qu'elle ne fait qu'aggraver les problèmes, en tout cas apparemment en ce moment.
Alors, juste, on a assez peu évoqué les pays voisins, mais juste pour en dire un mot, hein, l'allié aujourd'hui hein, sur lequel souhaite vraiment s'appuyer la France, c'est incontestablement le Niger, hein, avec le président Mohamed Bazoum, qui est vraiment considéré comme un pilier, comme un espoir par la diplomatie française. Il faut savoir que les relations de la France avec le Burkina Faso ne sont pas bonnes du tout non plus. Le Burkina Faso a notamment toujours résisté résisté. Hein, l'opération Barkhane, elle n'a pas de troupes hein, sur le territoire burkinabé. Les Burkinabés ont toujours été très réticents face à toute forme de coopération, donc ce ne sont pas non plus des acteurs qui sont acquis à la France dans la région. Donc ça fait quand même un petit peu un bloc qui se constitue, qui n'est pas favorable aux options, en tout cas, promues par la France. Mais à mon avis, bah, vous dites problème politique, solution politique, mais c'est totalement ce qui se profile. Parce que on regarde beaucoup, et beaucoup trop, selon moi, comme je vous l'ai dit, du côté des groupes djihadistes, qui, à mon avis, bon, c'est très difficile de connaître quelles sont leurs capacités réelles, etc., mais n'ont pas de capacité, bon, déjà, de conquérir l'État central, mais surtout d'y exercer le pouvoir. Enfin, là, pour le coup, on n'est vraiment pas dans le cas des talibans. Mais en revanche, il y a d'autres forces politiques conservatrices et pacifique. Je vous parlais tout à l'heure du rôle de l'imam Diko. Je pense qu'on s'achemine au Mali vers un modèle qui sera peut-être une alliance religieuse et militaire du type de celle qu'on a pu voir au Soudan à un moment donné entre Omar el-Béchir et al-Tourabi. Avec un guide, une sorte de guide spirituel qui pourrait être l'imam Diko, mais en tout cas, il ne faut pas mésestimer l'importance de ces forces conservatrices, mais qui ne sont pas pour autant violentes. Et quelle est la réponse que l'on peut apporter à ça ? C'est là que la stratégie diplomatique et politique doit vraiment reprendre ses droits et que effectivement le recours à la force militaire n'y pourra mais, hein, si je puis dire. Donc moi, l'évolution, je la vois plutôt aller dans ce sens, vers un régime islamique conservateur, en tout cas au Mali, cas du Burkina Faso est évidemment différent, c'est un État multiconfessionnel, mais le retrait des militaires, y compris en le cas d'une accession au pouvoir de courants plus religieux, n'est pas garanti non plus. Et d'ailleurs, s'agira-t-il de ces militaires ? Rien n'est moins sûr. Hein. L'armée elle-même est parcourue de courants contraires. À l'époque du coup d'État en 2020, on disait qu'il y avait au moins 5 coups d'État qui étaient en préparation. Donc voilà, mais on voit très bien que là, ce n'est pas l'action opérationnelle qui pourra jouer sur ces dynamiques.
Mais effectivement, ça, vous l'avez évoqué, mais ça permet d'en dire un mot pour conclure. En plus, la conjonction de l'actualité à la fin de l'été a fait qu'il y a eu le spectre de l'Afghanistan, évidemment, mais parce que ce sont des échecs différents de contre-insurrection, mais ce sont quand même des échecs de contre-insurrection. Mais donc, selon vous, la grande différence, c'est qu'on n'a pas, à la différence de l'Afghanistan, une espèce de contre-pouvoir islamique conservateur, tout ce qu'on veut, mais qui a eu l'expérience du pouvoir, qui a contrôlé un pays, qui l'a perdu, mais qui l'a reconquis progressivement territoire après territoire. Là, on est dans des nébuleuses beaucoup plus insuffisamment ancrées, en tout cas avec un savoir-faire administratif et politique bien moindre, ce qui fait qu'on n'a pas de perspective de vraie chute de l'État malien face à cette nébuleuse,
c'est ça ? Ça, moi, je ne pourrais pas l'affirmer, parce qu'opérationnellement, effectivement, il est tout à fait possible que l'armée malienne s'effondre face à la progression de groupes djihadistes. Est-ce que ces groupes auront la capacité à rester, à exercer le pouvoir ? Ça, je suis très très loin d'en être sûre. Un certain nombre de leaders ont des prétentions très localisées, comme je le disais. Hein, les prétentions d'Amadou Koufa, elles portent essentiellement sur le centre du Mali. Yada Gali, beaucoup sur le nord. Donc les relations avec les groupes signataires, notamment les composantes de la coalition des mouvements de l'Azawad, va être absolument majeur. Mais une fois de plus, je pense qu'il ne faut absolument pas mésestimer ces courants politiques, pacifiques, mais qui font la promotion d'une vision complètement alternative de la société, bien sûr d'un point de vue religieux, mais aussi d'un point de vue moral, d'un point de vue éducatif, qui porte un projet politique alternatif à celui des élites au pouvoir perçu comme proche de la France ou plus largement des partenaires internationaux et de l'Occident.
Et ce genre d'acteurs pourrait en quelque sorte contenter les groupes à prétention locale, c'est-à-dire un pouvoir central, pacifiste, mais très conservateur, voire très islamique, ça pourrait en quelque sorte permettre le modus vivendi territorialisé entre les groupes djihadistes qui ont des ambitions locales et, disons, un pouvoir central qui les combattrait peut-être moins, qui les laisserait vivre chacun de leur côté, c'est ça ?
Alors après, il ne faut pas oublier les concurrences et la compétition très violente entre les groupes djihadistes, notamment entre les groupes affiliés à l'État islamique et les groupes affiliés à Al-Qaïda. Alors, les groupes affiliés à l'État islamique ont été beaucoup plus affaiblis par l'intervention de l'opération Barkhane que ceux affiliés à Al-Qaïda. Mais c'est une des questions de savoir si la mort notamment d'Abu Walid al-Sarraoui va réduire l'influence de l'État islamique qui avait été déjà très amoindri par ses combats contre le Jessim.
Alors ça, on peut juste rappeler, enfin on peut renvoyer parce qu'on va pas avoir le temps, mais à l'émission qu'on avait fait avec Wassinat, dire que, en fait, parce qu'on n'avait pas eu le temps d'en parler, mais entre le JNIM et l'État islamique, pendant longtemps, il y a eu une cohabitation qui a été totalement inédite, mais qui s'est délitée depuis quelques années maintenant.
Seulement depuis 2020, en réalité. Ouais. C'est assez récent.
Mais donc là, ils sont complètement en guerre ouverte. La France a joué l'un contre l'autre, c'est-à-dire, disons, s'est concentrée sur l'État islamique. C'est un groupe qui, donc, a été très affaibli.
Elle s'est concentrée au moment du sommet de Pau sur l'État islamique. Et je pense que c'était... Parce que moi, j'ai toujours été très surprise par cette concentration sur l'État islamique. Et je pense que c'est quelque chose qui avait été négocié par le président Ibeka. C'est-à-dire de dire la concentration, c'est sur l'État islamique et pas sur le Jessim, parce que moi, je veux engager des négociations avec le Jessim. Mais ça, ça a changé par la suite. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu notamment le sommet de N'Djamena, bon, qui a... parler de ce fameux sursaut civil et politique qui malheureusement n'apparaît absolument plus dans la rhétorique aujourd'hui, mais qui a aussi affirmé la détermination à lutter aussi contre le Jessim et notamment contre ses leaders. Parce que je pense que la France s'est rendue compte que le combat mené au Sahel était totalement désincarné. C'est-à-dire qu'annoncer des neutralisations de djihadistes et des saisies de matériel, ça ne parlait pas nécessairement à l'opinion publique française. Donc il y a eu un effort, y compris à travers les conférences de presse du directeur de la DGSE, Bernard Rémier, qui a présenté des images PowerPoint avec les photos des leaders, notamment Yadak Gali, Amadou Koufa, Al-Sarraoui, parce que je pense qu'il y a aussi la volonté du côté des autorités françaises d'avoir une victoire comparable à celle des Américains qui finalement sont allés au bout de la logique, ils auraient sans doute dû s'arrêter là, en éliminant Oussama Ben Laden. Et tout le monde savait qui ont combattu, qui ont recherché aujourd'hui, quand bien même on a annoncé la mort d'Abu Walid al-Sarraoui. Moi qui suis le Sahel, je sais que c'est très important comme victoire, mais qui s'en rend véritablement compte, y compris en France, c'est un petit peu difficile. Donc je pense que cette approche consiste à dire on fait du contre-terrorisme, c'est-à-dire qu'on se concentre sur les têtes pensantes des mouvements parce que finalement le discours s'adossit un peu par rapport à cette question des négociations en disant oui, nous distinguons les leaders des combattants qui peuvent être des brebis égarées. Il y a cette approche-là. Mais à mon avis, on reste encore une fois beaucoup trop centré sur la dimension sécuritaire de la crise sans véritablement envisager l'ensemble des possibilités politiques. Et l'arrivée au pouvoir de l'imam Diko, par exemple, bien que je ne suis pas certaine que lui-même veuille exercer le pouvoir, il se verrait à mon sens plutôt dans une position de guide spirituel, mais la question de savoir qui va véritablement exercer ce pouvoir en lien éventuellement avec les djihadistes est aussi considéré comme une fin de non-recevoir côté français. C'est-à-dire que la position consiste plutôt à dire oui, si l'imam Diko prend simplement le pouvoir, de toute façon, il rencontre tout le monde, ce qui est vrai, très bien. Mais en revanche, s'il prend le pouvoir en passant des accords tels que ceux que vous décriviez avec des leaders djihadistes locaux, c'est hors de question. Mais je pense que c'est véritablement ce vers quoi on s'achemine.
Très bien. Merci beaucoup, Niagaleba Kayoko, de nous avoir aidé à voir plus clair. disons, dans la crise politique derrière l'impasse militaire. Enfin, en tout cas, les victoires tactiques, les difficultés stratégiques et, en fin de compte, les impasses politiques de la situation au Sahel. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était donc Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques et commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux d'IRSEM, qui sont toujours les bienvenus, tout comme vos notes et commentaires, notamment sur Apple Podcasts, qui aide énormément à la visibilité du podcast. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.